Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Il est coutumier de penser qu'une personne bonne, sincère et menant une vie honnête sera acceptée par Dieu, quelle que soit sa religion. Si vous le croyez, je vous invite à écouter attentivement cette émission. Il n'est pas rare d'entendre que les bonnes œuvres sont sans conséquence pour obtenir le salut éternel et qu'il suffit tout simplement de professer le Christ, de croire fermement qu'il est notre Sauveur et d'accepter la grâce divine, un point, c'est tout. Si seule la foi en Christ suffit, demandons-nous pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Et si les seules conditions requises par Dieu se résument à être bon, sincère et honnête, alors de nouveau une question se pose. Pourquoi l'apôtre Pierre a écrit « Il n'y a de salut en aucun autre que le Christ bien entendu, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » S'il suffisait simplement de croire en Dieu, pourquoi l'apôtre Jacques déclare-t-il « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Croyez-vous que les démons obtiendront le salut parce qu'ils croient en l'existence de Dieu ? Le croyez-vous vraiment ? Cette croyance sur la grâce divine et les œuvres est-elle basée sur la parole de Dieu ? Avez-vous pris la peine de la vérifier ? La majorité des chrétiens prétendent que seule la foi en Christ et en son sacrifice est nécessaire au salut. Ils basent cette croyance sur les paroles que Paul et Silas adressèrent au geôlier. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ils ne poursuivent pas la lecture de ce passage biblique qui pourtant ajoute « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, c'est-à-dire l'enseignement que le Christ a donné » et qui doit être mis en pratique journellement. Certaines personnes voudraient avoir la foi, mais elles n'arrivent pas à l'obtenir. Leurs pensées sont souvent teintées de doutes et de découragement. Qu'est-ce que la foi ? L'apôtre Paul nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est donc la conviction, la certitude que les choses qu'on ne voit pas, qui ne sont donc pas perceptibles, existent bel et bien. La foi est la conviction profonde que la parole de Dieu est la vérité, et cette conviction, cette foi, pousse ceux qui veulent devenir disciples du Christ à marcher et à vivre comme il a vécu lui-même. Comment pouvons-nous obtenir la foi ? L'apôtre Paul déclare « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient donc de l'étude des enseignements contenus dans la Bible. La foi est une des qualités du fruit de l'Esprit, c'est un don gratuit de Dieu. Pour trouver cette foi, pour l'obtenir et la garder, nous devons étudier la Bible pour y trouver les promesses divines et tenir pour vrai que le Christ est le Sauveur de l'humanité et enfin, mettre en pratique ses enseignements. Jésus a dit, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Qu'est-ce que la repentance ? La véritable repentance est la reconnaissance des péchés commis, des transgressions de la loi divine et la soumission à celle-ci. Si une personne est sincèrement repentante, et si elle s'efforce courageusement de ne plus vivre en transgressant la loi, lors de son baptême, Dieu lui accordera sa puissance, son Esprit Saint, et elle deviendra alors un enfant engendré de Dieu. L'Esprit, la pensée même de Dieu, lui transmettra la foi du Christ. L'apôtre Paul écrit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Cette foi dont Paul était imprégné est une des qualités du fruit de l'Esprit. Dieu accorde son Saint-Esprit à celui qui lui obéit. Le Saint-Esprit n'est pas stérile. Si nous l'utilisons, Il porte du fruit dont les qualités sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'indulgence, la foi, l'humilité et la maîtrise sur soi-même. Mais revenons-en à la grâce. Ce mot est souvent prononcé dans les propos religieux. Savez-vous quelle est sa signification exacte? Parmi les diverses définitions, le petit Robert cite « grâce », ce qu'on accorde à quelqu'un pour lui être agréable sans que cela lui soit dû. Pardon, remise de peine, mesure de clémence au profit d'un coupable irrévocablement condamné. Dans le Nouveau Testament, le mot « grâce » est traduit du grec « charis », pouvant signifier une faveur, un cadeau, une libéralité que Dieu confère à une personne qui ne la mérite pas. Ce terme implique donc aussi un pardon non mérité. Prenons l'exemple d'un criminel condamné à une peine de prison. Le pouvoir exécutif prend une mesure de clémence en sa faveur et ce condamné est libéré. Il est désormais libre de réintégrer la société. Est-il maintenant autorisé à commettre un nouveau crime à la suite de cette grâce? Non, bien entendu. Il en est de même lorsque Dieu pardonne les péchés de quelqu'un. Et je vous rappelle que le péché est la transgression de la loi. Lorsqu'une personne s'est vraiment repentie pour être baptisée, elle reçoit à cette occasion une grâce de Dieu, un pardon non mérité pour ses péchés qui ne lui sont plus imputés. Toutefois, le pardon de ses péchés ne l'autorise pas à recommencer, à se croire libre de vivre à nouveau dans la transgression de la loi. Ceci est clairement énoncé par l'apôtre Paul qui écrit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. » Et un peu plus loin, Paul ajoute « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. » Il poursuit en disant « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Un gracié n'a ni le droit ni la liberté de vivre à nouveau dans la transgression de la loi, dans le péché, sous peine d'être à nouveau condamné. Nous pouvons donc comprendre que la grâce est une faveur accordée lorsqu'on se repent sincèrement de ses péchés et qu'on accepte le sacrifice du Christ. On reste sous la grâce divine aussi longtemps que l'on reste fidèle à Dieu et à ses commandements avec l'aide de son Saint-Esprit. Cependant, si par défaut d'attention ou d'application, nous péchons à nouveau, alors nous retombons sous la condamnation de la loi et nous devons implorer le pardon divin en priant comme Jésus l'a enseigné, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Examinons maintenant la question des œuvres. La grâce et les œuvres ne sont pas incompatibles. La Bible ne contient pas de contradiction. S'il en était autrement, elle serait un guide inutile au salut. En fait, la grâce et les œuvres se complètent. Elles ne peuvent aller l'une sans l'autre. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jacques écrit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ici, le mot « âme » est traduit du grec « pneuma » qui signifie « souffle ». L'apôtre Jacques compare un corps sans souffle, donc sans vie, à une foi qui serait sans œuvre. Il poursuit en disant d'Abraham « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Paul écrit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Les œuvres d'Abraham consistaient à obéir à Dieu, à observer ses commandements et ses lois, et à croire en ses promesses. Sa foi le conduisit à offrir son fils Isaac, comme Dieu le lui avait demandé pour l'éprouver, pour tester sa foi. Il avait la ferme assurance que Dieu ressusciterait ce fils unique, puisqu'une postérité lui avait été promise par celui-ci. La foi sans les œuvres est morte, mais la foi avec les œuvres est vivante. Paul enseigna lui aussi que l'homme est sauvé par la grâce, mais à l'aide de la foi qui est un don de Dieu. Nous ne sommes nullement sauvés par les œuvres, quoiqu'elles soient nécessaires à notre salut. Il écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi vivante est un don que Dieu accorde avec son Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Paul poursuit, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Le salut, la vie éternelle, s'obtient par la grâce divine. Le salut fait suite à un pardon non mérité, et pour l'obtenir, la foi de Jésus-Christ qui vit sa vie dans le véritable chrétien est nécessaire. Bien que les œuvres n'apportent pas le salut, elles sont indispensables. Le salut ne sera jamais la récompense d'une vie remplie de bonnes œuvres. La vie éternelle est un don de Dieu que l'homme ne peut obtenir que par le repentir, la foi en Christ et l'obéissance à Dieu, notre Père souverain. Certains citent un passage du 11e chapitre de l'Épître aux Romains. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Il est vraiment regrettable de tirer un passage de son contexte pour justifier des croyances qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, et c'est très souvent le cas. Dans ce passage, l'apôtre Paul parle du peuple d'Israël. Il écrit « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» En d'autres termes, « Dieu a-t-il condamné Israël ?» À cela, Paul répond « Loin de là ». Plus loin, il explique que la majorité des gens sont aveugles à la vérité. Seule une minorité peut la comprendre. Dans ce chapitre, il écrit « De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Dieu a donc ouvert les yeux d'un petit nombre à sa vérité. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Dieu appelle au salut, il l'accorde, il le donne selon sa grande sagesse et nous ne pouvons le gagner par nos œuvres. » On pourrait se demander pourquoi l'Épître aux Galates, par exemple, semble présenter les œuvres comme une malédiction. Pour comprendre ces passages, il faut savoir qu'il existe deux lois. La première est éternelle et la seconde a été donnée plus tard parce que la première loi avait été transgressée. Mais la deuxième était temporaire et en vigueur seulement jusqu'à la mort du Christ. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'une personne bonne, sincère et menant une vie honnête ne pourra pas être sauvée. Tout cela est bon, bien sûr, mais insuffisant, car Dieu demande plus que cela. D'ailleurs, ce qui est bon à nos yeux, ce qui est honnête à nos yeux, n'est pas un critère et peut varier d'un individu à l'autre. Mais en est-il de même aux yeux de Dieu ?